à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 8 septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Tout d'abord, les titres. Au Mali, de nouvelles exactions attribuées au groupe paramilitaire russe Wagner. Bagassi Koura fera le point. Au Burkina Faso, des femmes et des enfants ont été ciblés dans l'attaque de lundi dans le nord, selon le ministre de la Défense. Au Cameroun, 6 civils ont été tués dans un car en zone séparatiste anglophone. En Guinée, le procès du massacre de 2009 au stade de Conakry s'ouvrira probablement fin septembre. Au Burundi, nomination d'un nouveau Premier ministre après des allégations de velléité de coup d'État. La tension est encore montée hier entre Moscou et l'Union européenne sur les livraisons de gaz russe, menace de Vladimir Poutine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, nouvelles exactions attribuées au groupe paramilitaire russe Wagner. Les villages de Niaouro et Tandiama, dans la commune de Fakala, dans le cercle de Djéné, dans le centre du pays, ont reçu en fin de semaine dernière la visite des paramilitaires de Wagner, accompagnés par des dozos, ces chasseurs traditionnels. Sur place, ils ont procédé à des arrestations et emporté des biens, selon des témoins à la VOA. Bagassi Koura.
Le dimanche 4 septembre, des hommes qui seraient des paramilitaires russes du groupe Wagner ont encerclé le village de Niaouro dans la commune de Sofala, dans le cercle de Djéné. Ils y sont restés pendant plusieurs jours, selon des témoins. Au troisième jour, ils ont procédé à des arrestations uniquement des hommes, ce qui a créé une panique totale dans la localité, selon un rescapé. Très vite, la localité s'est vidée de ses habitants qui se sont dispersés dans la nature. C'est en ce moment que des dozos sont entrés dans le village pour piller les biens, nous confirme un habitant qui a trouvé refuge dans le village de Sofara. Selon lui, ils ont emporté du bétail, de l'or, de l'argent et des bijoux des femmes qu'ils ont retrouvés après la fouille des maisons. Tout cela se serait passé sous l'œil vigilant des soldats blancs, affirme une source locale. Le village de Tandiama, toujours dans la commune de Fakala, a également reçu la visite musclée de ces hommes blancs, indique un témoin qui a voulu garder l'anonymat. Même scénario là-bas aussi, des femmes auraient été violentées et des biens emportés, ajoute un témoin. Il faut dire que depuis 3 semaines, lors des jours de foire de Sofara, des hommes blancs présentés comme des paramilitaires russes procèdent à des arrestations. Plusieurs personnes disent n'avoir aucune nouvelle de leurs proches arrêtés. Ici à VOA Afrique, on tente toujours d'avoir une réaction des autorités maliennes.
Au Burkina Faso, le ministre de la Défense, Barthélemy Sempore, a révélé que l'attaque qui a fait 35 morts lundi dans le nord a pris pour cible principalement des femmes et des enfants. Ils étaient dans un car qui a sauté sur un engin explosif actionné à distance. Précision de Mohamed Humfa.
Selon les premières investigations, un engin télécommandé a été actionné à distance par les groupes armés terroristes qui ont ciblé un car transportant essentiellement des femmes et des enfants, a déclaré hier le général Sempore, ajoutant qu'il s'agissait du 91e véhicule du convoi de ravitaillement. Les assaillants ont laissé passer des véhicules et ont ciblé celui dont les occupants étaient des femmes et des enfants, a-t-il insisté à l'issue du Conseil des ministres, estimant que cela révèle la nature perfide et cynique des groupes armés terroristes. L'explosion lundi de cette bombe artisanale au passage d'un convoi de ravitaillement entre Dibo et Bourzanga dans le nord a fait au moins 35 morts et 37 blessés civils selon un bilan officiel. Ces convois, escortés par l'armée, ravitaillent des villes du nord soumises à un blocus de groupes djihadistes. Immédiatement après l'incident, les unités militaires se sont déployées pour sécuriser la zone et permettre de prendre en charge les nombreuses victimes, a expliqué le ministre. Le convoi a ensuite repris sa route jusqu'à la capitale burkinabé.
Au Cameroun, une femme et 5 hommes ont été tués par des terroristes mardi dans l'attaque d'un car dans le sud-ouest, selon le gouvernement.
Une guerre meurtrière oppose dans cette région des groupes armés séparatistes anglophones aux forces de l'ordre. 8 autres personnes, 6 femmes et 2 hommes, ont été blessées, selon le porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi hier. Un responsable d'ONG ayant requis l'anonymat a dit que l'attaque est le fait des Amba Boys, c'est-à-dire des séparatistes anglophones qui cherchent à empêcher la reprise de l'école. Le ministre guinéen de la Justice annonce que le procès du massacre au stade de Conakry en 2009 s'ouvrira probablement le 26 septembre, 48 heures avant la date anniversaire de cet événement tragique. Le point avec Abdourahmane Dia.
Tout porte à croire que si l'on se fonde sur les instructions de M. le Président de la Transition, ce procès probablement va avoir lieu à partir du 26 septembre, a déclaré le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright. Il a toutefois précisé que la date doit être validée. Le colonel Doumbouya avait demandé mi-juillet l'ouverture du procès avant la date anniversaire du massacre. Mamadou Niang, chef de la mission de la CPI en visite à Conakry, a émis avec prudence une note de confiance. Ce que j'ai vu confirme vraiment une avancée extrêmement significative dans la préparation de ce procès symbolique, a-t-il dit après avoir visité les locaux aménagés pour accueillir le procès. Du côté de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, l'espoir est de mise pour la tenue du procès ce mois. Le 28 septembre 2009, une répression d'opposants et de militants de la société civile contre une possible candidature du chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara, avait fait au moins 157 morts et plus d'une centaine de femmes violées, selon une commission d'enquête de l'ONU.
Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye a nommé hier un nouveau premier ministre, 5 jours après avoir dénoncé des velléités de coup d'État de la part de ceux qui se croient tout-puissants et passent leur temps à saboter son action. Michel Joseph.
Le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndira Kobutia, a prêté serment hier. Sa nomination proposée par le chef de l'État a été validée à l'unanimité par les 2 chambres du Parlement. Il vient remplacer Alain-Guillaume Bougnoni, considéré comme chef de file des durs parmi les généraux. Le nouveau premier ministre est aussi issu de ce cercle de généraux de l'ex-rébellion. Il dirigeait justement le très redouté service national de renseignement, accusé d'être au cœur du système répressif burundais depuis la crise de 2015. En avril 2015, la candidature à un troisième mandat de l'ancien président Pierre Nkurunziza, décédé en juin 2020, avait déclenché un vif mouvement de l'opposition réprimée avec au moins 1200 morts et 400 000 Burundais poussés à l'exil. Les États-Unis et l'Union européenne avaient pris des sanctions contre plusieurs figures du régime, dont Gervais Indira Kobutia, pour leur rôle dans cette répression. En novembre 2021, Washington a annoncé la levée des sanctions, saluant une embellie depuis l'élection d'Évariste Ndayishimiye, mais le nouveau premier ministre burundais est encore visé par les sanctions de l'Union européenne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée ukrainienne revendique des avancées sur le front du nord-est avec la reprise de plusieurs localités de la région de Kharkiv. Et ce jeudi, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, accueille sur la base américaine de Ramstein en Allemagne ses homologues des pays alliés pour discuter de la situation en Ukraine et organiser leur soutien aux capacités militaires ukrainiennes. Par ailleurs, la tension a encore monté hier entre Moscou et l'Union européenne sur les livraisons de gaz russe. Vladimir Poutine cherche ou menace de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plafonnement des prix. Le président russe se défend d'utiliser l'énergie comme une arme face à l'Europe qui craint des pénuries. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les pays du G7 disent vouloir mettre en œuvre urgemment un plafonnement du prix du pétrole russe. Ils encouragent une large coalition de pays à y participer en représailles contre l'offensive russe en Ukraine. En réaction, le président Vladimir Poutine affirme que la Russie ne va plus livrer de pétrole ou de gaz aux pays qui vont plafonner les prix des hydrocarbures vendus par Moscou. Si les pays européens veulent renoncer à leurs avantages compétitifs, c'est à eux de décider, prévient Poutine. Il soutient qu'il ne fournirait rien en dehors du cadre des contrats signés avec les pays. La Russie a annoncé la semaine dernière la fermeture des vannes du gazoduc Nord Stream qui dessert l'Allemagne et plusieurs autres pays européens, invoquant des raisons techniques, notamment de tribunes en panne, sans dire quand elle sera réparée. M. Poutine a appelé les pays européens à revenir à la raison au moment où des voix s'élèvent en Occident pour l'accuser d'utiliser son gaz comme arme de pression dans le contexte du conflit en Ukraine. Ces accusations sont balayées d'un revers de main par Vladimir Poutine.
Un Palestinien a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi dans le nord de la Cisjordanie occupée après avoir attaqué un soldat israélien avec un marteau, le blessant au visage. Le soldat a riposté par balle et neutralisé le suspect, a indiqué l'armée. L'ouest des États-Unis continuait de suffoquer sous des températures extrêmes mercredi, avec des risques de coupure de courant en Californie, dont le réseau électrique poit face à la vague de chaleur qui s'abat sur la région depuis une semaine. La Minute Éco, Frère Morin Gibault.
En République démocratique du Congo, le ministre des Transports, Chérubin Okende, a commandé lundi 14 bus et 6 taxis fluviaux pour le transport entre la capitale et des localités environnantes. Les bus fluviaux seront dotés d'une capacité de 130 places chacun et les 6 taxis pourront transporter chacun 25 personnes. Ils devraient servir au transport entre Kinshasa et Maluku, en périphérie de la capitale. Africa Works, leader des bureaux partagés sur le continent, annonce l'ouverture de son troisième espace à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le quartier du Plateau. Après Marcory en 2019 et Zone 4 en 2021, Africa Works ouvre dans le quartier d'affaires historique d'Abidjan un espace de 800 m² qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Le risque de récession augmente dans l'Union européenne en raison de la flambée des prix de l'énergie sur fond de guerre en Ukraine, a déclaré hier le commissaire européen à l'économie. Paolo Gentiloni a averti que l'Union européenne pourrait vivre l'un des hivers les plus difficiles depuis des générations. Les cours du gaz s'élevaient fin août à 15 fois leur niveau d'avant la pandémie. Hier mercredi, le président russe Vladimir Poutine a dit que la Russie ne va plus livrer de pétrole ou de gaz aux pays qui veulent plafonner les prix des hydrocarbures vendus par Moscou.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le trophée de la Coupe du Monde est à Dakar.
Oui, les Sénégalais découvrent ce trophée de la Coupe du Monde de football exposé au théâtre de Dakar dans le cadre de la tournée organisée par la FIFA. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations en février, les supporters sénégalais estiment que les Lions de la Teranga ont toutes les chances de sortir vainqueurs de la 22e édition du Mondial au Qatar. C'est le cas de Alioune Ngom.
On souhaite d'y aller au Qatar, gagner pour la première fois un pays africain peut gagner la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, nous souhaitons qu'il sera la bonne. Au mois de décembre, on gagne le trophée. On peut le gagner.
Quelques résultats des matchs d'hier en Ligue des Champions en Europe.
Oui, l'Ivoirien Eric Bailly et l'Olympique de Marseille se sont inclinés 2-0 sur le terrain de Tottenham. On est d'autant plus déçus qu'on pouvait prendre au moins un point. On fait une erreur qui coûte cher et à 10, c'était compliqué, a affirmé le défenseur central ivoirien à l'issue de la rencontre. Antoine Griezmann a offert un premier succès à la dernière seconde à l'Atlético Madrid qui s'est imposé 2-1 face au FC Porto. Les choses se compliquent davantage pour Liverpool. Le Guinéen Naby Keïta et l'Égyptien Mohamed Salah et leur équipier se sont inclinés 4-1 devant Naples. Belle opération par contre pour le Bayern Munich de Sadio Mané, vainqueur de l'Inter Milan 2-0, 5-1 pour le FC Barcelone devant Victoria Plzen.
Tennis, Ons Jabeur joue sa demi-finale de l'US Open ce jeudi.
La Tunisienne, cinquième mondiale et finaliste du dernier Wimbledon, tentera de se hisser pour la deuxième fois de sa carrière en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Pour cela, elle devrait battre la Française Caroline Garcia, qui a dominé l'Américaine Coco Gauff en quart de finale 6-3, 6-4. En quart de finale mardi, Ons Jabeur a battu l'Australienne Adjla Tomjanovic, tombeuse de Serena Williams au troisième tour, 6-4, 7-6.
Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seguia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président burundais nomme un nouveau premier ministre, Gervais Ndirakobucha, remplace Alain-Guillaume Bougnoni. De même, des changements ont été opérés au sein de l'appareil sécuritaire. Le remplacement du chef du gouvernement intervient quelques jours après que le président Évariste Ndayishimiye a dénoncé des velléités de coup d'État. Abdulrahman Dia a joint à Bujumbura Tassien Sibomana du parti d'opposition UPRONA.
Je pense que ces deux annonces sont intimement liées parce que même pour des gens non avisés, ça faisait un temps que les deux personnalités parlaient deux discours assez contradictoires, voire même des discours de rivalité, pour ne pas dire de dédain mutuel. Ça veut dire que, quelque part, le président insinuait, d'ailleurs il n'insinuait pas, et dernièrement il a dit ouvertement qu'il avait des gens qui lui tendaient des pièges, qui l'empêchaient de bien faire pour le peuple burundais, bref, qui le sabotaient jusqu'à vouloir organiser justement des coups d'État contre lui.
Est-ce que vous pouvez nous parler du nouveau Premier ministre Gervais Ndirakobucha qui occupait jusque-là le poste stratégique de ministre de l'Intérieur?
Ça serait trop m'aventurer de ma part de parler de la personne. Je ne maîtrise pas tellement son discours, son parcours plutôt, sauf que je sais qu'il a fait le maquis comme son prédécesseur, comme le président de la République maintenant. Seulement ce que je peux dire de lui, c'est une personne qui met en exécution ce qu'il veut. Donc, en termes clairs, c'est un homme d'action.
Alors, c'est un homme d'action. Vous espérez peut-être qu'il pourrait aller dans le sens d'un rapprochement ou en tout cas de la mise en place d'un climat d'apaisement avec l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition attend de ces changements?
Le président de la République vient de prouver aux yeux du peuple burundais et aux yeux du monde entier que c'est lui qui est le maître à bord. Donc, s'il veut un climat d'apaisement à l'endroit de l'opposition, s'il veut amorcer des initiatives allant dans le sens de bien faire pour le peuple burundais, je pense qu'il vient de prouver que personne ne peut lui tenir tête, ne peut l'en empêcher.
Et l'opposition serait prête à répondre à une main tendue du pouvoir?
Vous savez, l'opposition n'a jamais refusé de la main du pouvoir. Ça dépend de la main dont vous voulez parler. Mais si jamais le pouvoir acceptait de s'asseoir sur une même table pour analyser toutes les questions qui hantent le Burundi depuis le passé récent de 2015, tout au moins, et l'opposition a toujours été disponible. Mais c'est justement le manque de volonté du pouvoir qui a été manifeste.
C'était Tassien Sibomana du parti UPRONA. À Bunia, dans le nord-est de la RDC, les autorités militaires ont assoupli le couvre-feu en vigueur depuis plus d'un an. Une décision consécutive à un retour au calme dans le chef-lieu de l'Ituri, expliquent les autorités. La population et les commerçants en profitent mais réclament la sécurité à l'intérieur de la province. Reportage sur place à Bunia de notre correspondant Alex Kati Kataï.
Il est 22h passé à Bunia. Dans ce bar du centre-ville, des centaines de personnes sont venues suivre les matchs de la Champions League. Georges, fan du PSG, ne semble pas pressé de rentrer chez lui malgré la nuit très avancée ici.
Bon, actuellement ça va, on peut marcher même jusqu'à 22h, on est à l'extérieur. Comparativement avant l'état de siège, vraiment ça va un peu, ça va.
Dans la rue, la circulation continue bien que timidement, mais tout semble calme. Trésor et mototaximen.
Nous circulons bien, le couvre-feu est presque inexistant. Dans Bounia, il y a quand même la sécurité. Mais avant l'état de siège, c'était très compliqué. On ne pouvait même pas se retrouver à cette heure en cet endroit. Il y avait des coups de feu un peu partout.
Ignace, tenancier d'une boutique dans la ville de Bounia, explique que l'assouplissement du couvre-feu lui permet de fermer un peu plus tard que d'habitude. Mais la situation à l'intérieur de la province l'inquiète.
Les marchandises viennent de Boutembo, mais actuellement, il n'y a pas de route. C'est très insécure là-bas et du coup, je ne sais pas renouveler ce qui manque dans ma boutique.
L'assouplissement du couvre-feu dans la ville de Bounia a été décidé par les autorités militaires qui gèrent la province de l'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège, il y a plus d'un an. Johnny Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri.
Vous imaginez que ça fait autant d'années que cette population vit dans l'angoisse, cette population ne peut pas sortir. Non, on ne peut pas continuellement comme ça faire subir ou soumettre à une population qui a souffert comme celle-ci à des couvre-feux. Non. Ils connaissent le prix de la paix aujourd'hui. Ils connaissent le prix de la paix. Et donc, ils nous font confiance. Nous avons vu que, voilà, ils se comportent bien et tout. Et donc, voilà, ils pouvaient, n'est-ce pas, profiter aussi de cette paix-là, comme tout le monde d'ailleurs au Congo.
Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs entités ont été libérées et l'autorité de l'État rétablie. Mais des poches de résistance existent encore, surtout dans les zones minières. Alex Katikatai, Bounia, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire est fixée au 12 septembre. Les préparatifs vont bon train. Comment les parents s'y prennent-ils et quelle ambiance dans les marchés? Un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Les vendeurs d'articles, de matériel et de tenues scolaires s'activent. Rosalie Kwaku et Amy Koulibaly vendent au marché du Forum d'Adjamé.
Bon, sans les sacs d'école, sacs collège, école primaire, maternelle, il y a des gouttes aussi, il y a des trous. On a des sacs qui passent, les élèves ils aiment bien ça. Tous les collégiens ils adorent ça, le bon emploi c'est un peu timide. Hein.
On voit, c'est le marché, c'est le moment où ça va commencer bien.
Les parents aussi préparent la rentrée de leurs enfants. Dame Alice Dibi, la mère du petit Jaurès.
Nous sommes venus faire un peu d'achat pour le petit qui va au CP1. Nous sommes venus acheter sa tenue scolaire.
Moussa Konaté, lui, est père de 3 enfants.
Je suis venu pour l'achat pour mes enfants. Comme il y a des scolarités à payer, donc je suis venu pour acheter les petits scolaires d'abord.
Au Kaolin, dans la commune d'Adjamé, secteur réputé être celui de la vente des tissus. En vogue pour les tenues scolaires, kaki, bleu blanc et carreau. Les couturiers Ali et Sekou Diara travaillent plein temps pour respecter le délai de livraison.
On va souvent satisfaire les parents et les enfants.
Non, ici, ça n'a pas de problème. Non, non, on ne pas faire rendez-vous ici. Comme ces tenues-là, on ne pas faire rendez-vous. Ça pour ça, on ne pas prendre le travail de fête. Ces tenues seulement, on en a fait.
À quelques mètres de là, des clientes évoquent le coût élevé des tissus.
On est venu acheter les tissus pour aller coudre kaki de nos enfants, mais vraiment, le tissu est cher.
Moi, 1200, c'est bon, mais 1500 mètres. Si tu as plusieurs enfants, tu vas dépenser combien d'un tissu? Et les cahiers, les sacs de ça.
Indexé, les commerçants s'expliquent.
En détail, les tissus, on pourrait vendre à 1000 francs, à 1200, mais actuellement, nous-mêmes là, on prend ça à 1000 francs, à 1200 maintenant. Donc, on ne peut même pas vendre les mêmes tissus.
À Yopougon, Wakouboué aussi, Sawadogo Irissa tient une librairie par terre.
Comme ce n'est pas encore la rentrée, on s'est débrouillé en plein temps. On mélange niveau avec la diaspora. On vend ça, vraiment ça va.
Quelques parents rencontrés sur place réagissent.
Le complet des cahiers coûte 9900. Je suis obligé de prendre les deux complets. Parce que je vois que ça devient moins cher.
Hélène Conan, mère de 2 enfants.
On nous avait déjà prévenu pour la date. Les enfants sont prêts.
Et les élèves reprendront effectivement le chemin de l'école à partir du 12 septembre pour une durée de 9 mois, soumise au découpage en 3 trimestres et le début des vacances le 31 juillet prochain. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les dérèglements climatiques et comment y faire face. Inondations records au Niger, au Sénégal, dans le Mississippi et au Pakistan. Dans les quatre coins du monde, les infrastructures d'assainissement ont du mal à contenir les quantités d'eau records se déversant sur les villes. Au même moment, la Corne de l'Afrique fait face à une sécheresse et une grave famine due au manque de pluie. Qu'est-ce qui explique ces conditions climatiques extrêmes? Le phénomène est-il irréversible et comment limiter son impact sur les populations? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Plusieurs dirigeants africains, dont les présidents Macky Sall du Sénégal et Tshisekedi de la RDC, ont dénoncé lundi l'absence des chefs d'État industrialisés à un sommet sur le changement climatique à Rotterdam, aux Pays-Bas. Ce sommet, programmé à 2 mois de la COP27 en Égypte, plaidait pour plus de financement pour soutenir l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Pour une analyse, Mohamed Humfa a joint Nikèze Moulombi, président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale.
Ce sommet n'avait pas lieu d'être. S'il fallait régler la question de l'adaptation, il fallait faire un sommet en Afrique pour les Africains avec les réalités du moment. Vous avez des organisations internationales qui se substituent de fois en lieu et place des États et réussissent à balader des personnalités. Et c'est comme ça que cette ONG qui a créé un centre sur l'adaptation a décidé de se faire de l'argent sur le dos des Africains.
Plusieurs dirigeants africains ont dénoncé l'absence des principaux leaders des pays industrialisés et pollueurs. Comment est-ce que vous réagissez à ces absences d'abord et à la posture des dirigeants africains?
Ça a été pour les peuples africains une insulte, une humiliation que d'avoir permis à ces chefs d'État respectés de répondre à une invitation d'une ONG pour 50 millions de dollars qu'un seul négociateur pouvait obtenir. Le chef d'État, fut-il en Afrique, on ne le déplace pas n'importe comment. Pour vous dire, en matière de négociations climatiques, l'Union africaine, qui a le mandat des États, a mis en place un groupe de négociateurs africains. Un chef d'État, quand il se déplace, il s'assure qu'il aura son homologue. Il s'assure que préalablement, il a la certitude que ce qu'il va recevoir est déjà prévu et qu'il part pour recevoir une annonce. Nous considérons que c'est une insulte au peuple africain au moment où la COP doit se régler. Dans un pays africain, il n'y avait pas urgence. Ces questions devaient se régler en Égypte.
Vous parlez d'adaptation. Pouvez-vous nous dire plus, c'est quoi l'adaptation pour l'Afrique?
L'adaptation pour l'Afrique, c'est le règlement de toutes les questions des régions côtières. C'est le règlement de toutes les questions des inondations. C'est le règlement de toutes les questions de sécheresse. Vous prenez l'Afrique centrale, vous voyez le lac Tchad. Le lac Tchad aujourd'hui est totalement desséché. Il y a une question de sécheresse. Il faut donc aujourd'hui s'adapter. La question de l'adaptation, c'est l'urgence de la sécurité alimentaire. L'urgence de l'adaptation, c'est la croissance économique et sociale de nos États.
Il se tient la COP27 le mois prochain. En tant qu'acteur de la société civile et défenseur de l'environnement, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet?
Nous attendons du sommet de l'Égypte le règlement de la promesse climatique. Nous devons capitaliser tout le travail de mise en œuvre qui a été lancé au Maroc lors de la COP de Marrakech pour que, in fine, l'Afrique qui a la solution, mais qui a un problème technologique, qui a un problème énergétique et qui a un problème de recherche scientifique, pose des problèmes sur la table. Et donc, la COP de l'Égypte étant une COP africaine, les décisions devraient se faire.
Nikèze Moulombi, président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale.
Let me
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.